Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette rencontre avec Pierre Péan. Bon, je ne vais pas présenter Pierre Péan parce que ça serait, je pense, presque lui faire injure. Je vais vous dire simplement que vous avez la chance et nous avons la chance d'être en présence d'un, pour moi, un des plus grands enquêteurs et écrivains sur, l'époque actuelle, au sens large, pour l'époque, hein, en France, qui a une œuvre tout à fait abondante, et qui, entre autres, a des, j'allais dire, des passions. Alors, on a connu la passion très ancienne des affaires, des choses africaines, des affaires africaines, hein, la passion
Pas
des.
très ancienne, puisque j'ai repiqué il n'y a pas
Vous
longtemps.
avez regoûté aux affaires africaines, si je puis dire. Vous avez aussi une vraie passion pour les hommes politiques. On se souvient bien sûr d'une jeunesse française consacrée à François Mitterrand et à la jeunesse de François Mitterrand. Et puis l'inconnu de l'Élysée avec un Jacques Chirac qui nous était présenté de manière très très originale. Et puis. Aussi quelques grands livres qui ont fait beaucoup de bruit. Je pense bien sûr à celui que vous avez écrit avec le regretté Philippe Cohen sur le journal Le Monde. Voilà. Alors là, on est en présence d'un troisième opus hein, autour de Jean Moulin. Jean Moulin, l'ultime mystère avec Laurent Ducastel. Donc c'est Albin Michel. On se dit, bon, allez, encore un livre sur Jean Moulin. Tout le monde a en tête évidemment les travaux de Daniel Cordier, hein, Benjamin, hein, c'est son nom de résistance, ou Caracalla, hein, puisque ça c'est la biographie de Daniel Cordier. Et on voit Jean Moulin, l'ultime mystère, avec cette femme au premier plan, et elle s'appelle Antoinette Saxe, ça c'est son nom de femme mariée, elle est née Mademoiselle Cohn, Kohn. Famille richissime, hein, on va dire, hein, du 16e arrondissement. Et vous dites très vite, page 9, dans un avertissement qu'il faut lire, on a voulu regarder Jean Moulin par les yeux d'une femme qui en a été très proche, d'où dites-vous un grossissement du rôle d'Antoinette Saxe, même si vous lui prêtez beaucoup de choses, hein, entre autres, par exemple, y compris, il y a un petit chapitre sur le transfert des cendres au Panthéon, hein, sur le discours de Malraux. Et puis vous avez pris le parti pris d'une forme de récit donnant vie aux acteurs avec des dialogues qui sont très documentés mais reconstitués pour qu'on ait un peu l'impression d'être témoin, d'être là. Alors j'ai une première question sur la forme du livre et peut-être vous demander de vous expliquer un petit peu sur ce parti pris, des chapitres très très courts, nous disions tout à l'heure en aparté, qui pourraient presque être. Publié un peu comme les éléments d'un feuilleton qui courrait dans un journal quotidien, dont on se dirait, voilà, oh là, vivement demain qu'on ait la suite. Et puis, cette forme qui est presque romancée. Alors, c'est pourtant pas un roman, c'est une histoire vraie. Est-ce que vous n'avez pas craint quand même, ou est-ce que vous craignez pas que les lecteurs se disent ou se posent la question, est-ce vrai ou est-ce reconstitué? Si c'est reconstitué, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce que c'est pas embelli?
Vous venez de poser toutes les questions qui m'ont conduit à faire un avertissement, à la fois pour les lecteurs, mais aussi pour les historiens. Parce que je me doutais bien que les historiens n'apprécieraient pas cette façon de faire. Mais pour comprendre le projet, c'est que je voulais, j'ai entraîné. Laurent Ducastel là-dessus. C'est-à-dire, je voulais. Il y a eu tellement de choses sur Jean Moulin. Moi-même, c'est mon troisième livre qui tourne autour de Jean Moulin. Et donc, fallait deux choses pour que je puisse m'y lancer. D'abord, ma seule légitimité, c'est de trouver des choses nouvelles. Et fallait. Il y avait aussi la forme, parce que je voulais redonner vie à Jean Moulin. Donc on a tous, on est porteur d'une image de Jean Moulin qui est plutôt le préfet jacobin, le préfet brutal, qui n'avait pas le choix d'ailleurs, il ne pouvait pas être autrement, puisque sa mission confiée par le général de Gaulle, c'était d'arrimer la résistance intérieure à Londres, au général de Gaulle. Donc cette image-là, j'ai voulu l'humaniser, c'était ça le projet, je voulais redonner vie à Jean Moulin. Et donc, dans les techniques pour redonner vie, il m'a semblé qu'il fallait séquencer le livre de façon complètement différente d'un livre d'histoire, parce qu'il y a de très bons livres sur Jean Moulin, que ce soit les livres de Cordier, d'Azéma et de quelques autres. Donc c'était donc le parti pris pas de le traiter comme un polar, mais enfin un peu ce style-là, et notamment en faisant des chapitres très courts, même des fois ultra courts. Et puis la deuxième, qui était plus délicate, c'était effectivement les dialogues où rien n'est faux, et pourtant ce sont des dialogues qui ont peut-être existé, qui n'ont peut-être pas existé.
C'est pas forcément vrai, mais c'est vraisemblable.
C'est plus que vraisemblable, c'est-à-dire que le contenu est vrai. Donc, sachant, anticipant déjà des critiques, d'autant que dans les précédents livres, j'avais reçu quelques critiques des historiens, voilà pourquoi j'ai fait un avertissement. Je dis « je » parce que ça, c'est ma patte.
C'est la patte de Pierre Péan. Alors, voilà. Antoinette Cohn, elle est née le 17 juin 1897. Le 17 juin, il y en a qui ont quand même le don de naître... sur des jours qui sont à des dates qui sont appelées à avoir un certain prolongement dans l'histoire. Bon. Elle dîne pour la première fois avec Jean Moulin, qui est le chef de cabinet de Pierre Cotte, en novembre 36 chez les Vibeaux. Hein.
Alors, c'est un avionneur.
C'est pas le Vibeaux WYBOT de la DST, hein, qui s'appelle en fait Varin. C'est le Vibeaux WIBAULT. Il fait des avions qui ressemblent furieusement à des Junkers avec trois moteurs. Là. On les voit chez Tintin, ces avions-là. Hein, avec un moteur à l'avant, puis deux moteurs et moteurs sur les ailes. En aluminium, un peu. Voilà,
absolument.
Voilà. Et donc, en fait, elle est invitée par la femme de Vibeaux parce que. La femme de Vibeaux pressent que ça va être un dîner un peu
ennuyant,
ennuyeux, emmerdant, voilà. Et elle invite Antoinette Cohn parce que, on va dire, vous dites que c'est une bonne cliente. Elle est bien dans les dîners, quoi.
Le mot qui me venait, mais il n'est pas bien parce qu'il peut être mal interprété, c'est elle vit quand même dans la haute société. Elle a deux parties dans sa vie. À la fois, elle est artiste peintre elle a des professeurs assez incroyables puisqu'elle a Soutine, ouais. elle a Léger, elle est amie de Van Dongen, ouais. Elle expose aux Tuileries, elle expose au Salon d'automne. Mais il y a tout un autre aspect, ce qui est à cette époque-là, c'était quand même pas fréquent que des femmes, surtout des femmes du monde, enfin du très très haute bourgeoisie, soient adhèrent à un parti politique. Ouais. Elle a sa carte de parti politique et elle est que dans une zone bien précise. Elle va jusqu'au plutôt jeune turc et elle va jusqu'aux socialistes.
Quand vous dites elle va, c'est qu'elle va jusque dans leur lit. Hein.
Elle peut aller jusque dans leur lit. On est à peu près sûr que Joseph-Paul Boncour, un ancien président du Conseil de la Troisième, que Albert Sarrault, elle a été très proche, on peut dire, et de très hauts fonctionnaires aussi. Ce qui expliquera plus tard ce style de vie, qui n'est quand même pas ordinaire, expliquera aussi la méfiance bien des années plus tard des historiens à cause de vis-à-vis d'elle. Je reviens sur cette femme, c'était avoir son pour dire quel style de personne, elle avait son permis de conduire en 1916, ce qui est quand même je ne sais pas combien il y en avait, mais il devait pas y en avoir beaucoup à cette époque.
C'est une forme de, on dirait aujourd'hui, enfin c'est pas une suffragette, mais elle est typiquement dans le profil années folles, vous dites. Elle a le corps des femmes des années folles telles qu'on se les représente, un peu androgyne, vous dites aussi.
Absolument, oui. Ah oui, puis j'ai oublié quelque chose pour la définir avant la guerre. elle est avec Paul Giraldi.
Oui, c'est ça, voilà.
Alors, Paul Giraldi, c'est pas n'importe qui. C'était le poète de l'amour, quelqu'un qui...
Toi et moi.
Hein. Toi et moi, 1 million d'exemplaires.
C'est à peu près le seul truc qu'il a fait.
Oui, mais enfin, non, 1 million d'exemplaires.
C'est un poème un peu, comment dire, icône, quoi, hein, Toi et moi. Tous les amoureux connaissent Toi et moi, hein, voilà, oui, à l'époque, quoi.
À l'époque, oui. Et donc, Et donc, elle rencontre donc,
Jean Moulin
ouais. Donc, chez cet avionneur qui organise une rencontre donc, qui était censée être emmerdante parce que c'était une délégation soviétique qui venait et où il y aurait Pierre Cotte, le ministre de l'aviation, et son chef de cabinet qui était Jean Moulin.
C'était Jean Moulin. Ouais. Alors, ça permet tout de suite de parler de Pierre Cotte. Un peu le sentiment que dans ce ministère de l'air, Pierre Cotte est une personnalité importante des années 30, hein, politiquement. Hein. C'est quelque part, on peut dire...
Fondateur d'Air France, par exemple.
Voilà, c'est quelque part lui qui va porter les ailes françaises, hein, véritablement.
Absolument, voilà. Absolument.
Et contrairement à ce que la droite, d'ailleurs, continue parfois de colporter, c'est lui qui va assurer le réarmement de la France du point de vue de l'aviation.
Absolument.
Hein, contrairement à la critique de Vichy sur le Front populaire qui a fait le naufrage en mer de l'air. En fait, très vite... Vous abordez la question de ce qu'on appelle la non-intervention relâchée, il faut expliquer ce que c'est, et du rôle majeur que Cotte et la bande de Cotte, dont Moulin est un peu la cheville ouvrière, va jouer comme rôle dans cette affaire. Parce que c'est important pour la clandestinité à venir.
Je crois qu'on ne peut pas comprendre Jean Moulin si on se replonge pas dans cette période de 1936-1937 avec... l'attaque de Franco et des franquistes contre les républicains espagnols. Et Léon Blum, dont le cœur était favorable évidemment à un soutien massif des républicains espagnols, n'a pas pu aller jusqu'au bout officiellement sous la pression de Londres, mais aussi sous la pression de la droite et l'extrême droite française. Mais Blum, donc, qui a été critiqué et qui continue d'être critiqué sur cette politique de non-intervention, a quand même donné la possibilité à Pierre Cotte et Vincent Auriol de créer un appareil clandestin pour aider les républicains espagnols.
C'est la contrebande d'État, quoi.
La contrebande d'État. Et donc, ce qui est quand même... pas rien, et donc avec deux personnages, à la fois donc Jean Moulin, qui était donc chef de cabinet de Pierre Cotte, et Gaston Cousin, qui était donc un douanier qui travaillait au cabinet de Vincent Auriol. Et donc ces deux personnages-là vont pendant quelques années, parce que même quand ils seront, quand Cotte aura disparu du ministère de l'air et qu'il deviendra ministre du commerce, eh bien Cotte, Moulin et Cousin continueront à faire de la contrebande d'État. Et donc, c'est quelque chose évidemment énormément de secrets, ce qui expliquera plus tard les liens qu'avait Jean Moulin avec des soviétiques, avec des gens des services secrets soviétiques, des liens donc avec des gens du Comintern. Et donc, va se nouer quelque chose, et je crois qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas faire un portrait de Jean Moulin si on ne comprend pas qu'il a été formé à la clandestinité dans cette contrebande d'État. Et donc, je viens tout de suite, parce que c'est une question qui est difficile et dont, finalement, peu ont parlé, parce que, par définition, comme c'était une contrebande d'État secrète, il n'y a pas de papier, ou pratiquement pas de papier. Et donc, je crois avoir été un des premiers, dans ma première biographie de Jean Moulin, à avoir longuement parlé de Gaston Cousin, à avoir moi-même longuement parlé avec Gaston Cousin, à avoir exploité des dizaines d'heures d'interviews, d'avoir complété ces dizaines d'heures par mois des interviews. Mais les historiens sont très ont des problèmes parce que quand il dit qu'il était à tel endroit en Espagne et qu'il sur tel bateau qu'il transportait secrètement, c'est très difficile à croiser. Mais néanmoins, donc moi j'ai pris ce parti-là et je crois qu'on ne peut pas voir Jean Moulin sans cet aspect-là très très important.
Alors l'autre aspect qui est intéressant.
Et il devient résistant, c'est-à-dire voilà. qu'il a une.
Oui, c'est-à-dire
qu'il y a à la fois aussi il y a les techniques de la clandestinité, mais l'univers, c'est-à-dire que pour lui, la résistance, elle commence dès 1936.
Voilà. Ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Ouais. Et si on n'a pas cette donnée-là en tête. Je pense qu'on passe à côté des choses. Et j'allais dire, c'est doublé par le fait que c'est un homme aussi, vous le dites très bien, qui cloisonne. Il a des compartiments, y compris sa vie sentimentale. Parce qu'il a aussi des compartiments dans sa vie sentimentale. Plus tard, un de ses amis dira que c'est un homme à femme. Mais il est très clairement, par exemple, dans sa relation avec Antoinette Saxe, qui lui dit « J'aime un homme et un seul, c'est Paul Géraldi, donc je ne serai jamais votre amante, etc. » Lui, ça ne le gêne pas, il continue à avoir sa vie privée, personnelle, manifestement avec, on va dire, des sentiments qui ne sont pas exclusifs, quoi, pour employer la métaphore. Par certains côtés, il rappelle quelqu'un qui a pu être président de la République entre 1981 et 1995, d'un autre côté, mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de 1936 à 1939 monter leur histoire et monter leur relation. Oui, et vous mettez l'accent là-dessus.
Alors, je pense que les deux aspects donc, sont complètement essentiels pour comprendre le résistant clandestin d'après. C'est un... Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut le mettre, mais son engagement pour aider les républicains espagnols. Mmh. Et le deuxième, son propre tempérament. Ouais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très, très difficile à saisir. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si lui-même se saisissait vraiment. Ouais, ouais. Et c'est ça qui m'a intéressé de le voir par les yeux d'Antoinette. Parce que le voir par les yeux d'Antoinette, c'est voir une passerelle qui existe avec un côté de lui qui est romanin. C'est-à-dire que je pense que s'il n'y avait pas eu son père, qui l'a poussé pour rentrer dans la préfectorale et de mener une carrière brillante dans la préfectorale...
Son père est prof de lettres. Hein.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est ça.
Dans l'Hérault, à Béziers. Et donc, je pense que ce qu'il aurait rêvé aurait été sans doute d'être artiste peintre.
Oui, ici, essaye. À la peinture, il va peindre. Hein.
Il va dessiner.
Alors, vous dites c'est un peu pompier.
Oui, moi je suis pas un enthousiaste errant par ce qu'il fait, mais ce qui est sûr, c'est que lui se voit. Ouais. Lui se voit en romanin. Romanin, c'est rêves d'adolescent, ouais. Puisque c'est le château du Moyen Âge où il passait l'été. Et donc le côté romanin est complètement essentiel pour comprendre Moulin. Parce que ça va extraordinairement loin, son cloisonnement. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, dans la journée, il est un préfet brillant, autoritaire, ayant le sens de l'État, ayant le sens de la France, etc. Mais quand il quitte son bureau, il devient un autre homme. Ouais. Il fréquente... C'est plus du tout les fonctionnaires.
Max Jacob.
Il devient proche de peintres, il devient proche de Max Jacob. Avec Max Jacob, il rencontre Céline.
Il faut dire qui c'est Max Jacob quand même.
Ah bah c'est un
tout
grand
poète. Tu ne connais pas forcément Max Jacob.
Je ne sais pas comment le définir, un grand poète.
Un étonnant personnage.
Un étonnant personnage, puisque...
Juif,
mais pas converti simplement. Ouais. Un engagé total mystique, qui a une vie mystique. Qui ne correspond pas apparemment à ses engagements catholiques.
Ouais. Peintre à Pont-Aven.
Hein?
Peintre à Pont-Aven.
Et donc, on voit bien, et quand il est à Paris, c'est Montparnasse. Ouais. C'est le Montparnasse de la nuit.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, ce côté-là n'a pas grand-chose à voir avec l'autre personnage. Mais en tout cas, ça montre qu'il est capable d'avoir des vies où il y a peu de passerelles.
Il est structuré pour la clandestinité.
Et donc, c'est les deux thèmes. Les républicains espagnols, la contrebande d'État et le type lui-même, donc d'un quelqu'un de cloisonné, ce qui permet sans doute de comprendre un peu...
Dans l'histoire, Moulin avant-guerre, d'ailleurs, vous dites très bien, page 40, hein, c'est ce que je disais, je voulais dire, derrière l'homme public se cachera désormais l'homme de l'ombre, il avait acquis des réflexes nouveaux, noués de solides amitiés qui lui seraient, le temps venu, utiles. Alors, est-ce que, en même temps, on peut dire que il est, par exemple, adhérent d'une espèce de micro-parti qui s'appelle le RUP? Le rassemblement
universel pour la paix,
qui deviendra plus tard plus ou moins l'appel de Stockholm dans les années 50.
Tout à fait. Bon.
Mais ce truc est totalement noyauté par le Comintern, très clairement. Il y a un permanent qui est quasiment un des dans le premier cercle du bureau politique du parti communiste de Torres. Ça veut dire que finalement lui, il penche de quel côté? Politiquement, est-ce qu'on arrive à le comprendre, ça? Est-ce que vous l'avez cerné? Est-ce qu'il est ratsoc?
Je crois que, d'abord, il faut mettre des séquences. Hein.
Ouais.
On peut pas, le personnage n'est pas quelqu'un de linéaire. En 1943, ce n'est pas le même que celui de 1936.
Je parle avant 39. Hein.
Ah oui, pas d'accord.
Non, je ne parle pas du déclenchement de la guerre, mais jusqu'en 39. Il est quoi? Il est crypto-communiste?
Non, dans un premier temps, il est radical. Mais il rencontre des gens au moment de ces bouleversements autour du Front populaire, autour donc de... Où il y a des mouvements... Et il côtoie des gens. Hein, il côtoie des gens, et notamment un personnage, moi, qui m'a fasciné... j'ai toujours rêvé de faire une biographie de lui.
Henri Manès.
Manès aussi, c'est intéressant. Mais c'est Louis d'Olivet.
Ah oui,
le personnage de Louis d'Olivet, qui arrive au confins de Autriche-Roumanie et juif, qui parle au départ pas français et qui arrive. Au début des années 30, et va, en très très peu de temps, va devenir un personnage essentiel dans le milieu intellectuel français. C'est lui qui pose problème pour les définitions de Moulin et ses rattachements. Lui d'Olivet, je crois qu'il y a... c'est un Cominternien. Alors la question...
Un peu comme Clément, quoi.
Oui,
enfin, Fried, quoi.
Et ce qui est sûr, c'est que Louis d'Olivet et Moulin ont été extraordinairement proches. Ce qui pose beaucoup de problèmes pour ceux qui travaillent sur Jean Moulin d'après.
Oui,
Alors, Louis d'Olivet, c'est effectivement, vous avez parfaitement bien défini le RUP, c'est au fond anticiper l'appel de Stockholm. Beaucoup de gens. Ils vont sans connaître derrière les manipulations qui peuvent être faites et par le Parti communiste et par Moscou.
Mais on est en 1935, donc ça correspond aussi au comité Amsterdam-Pleyel.
Absolument.
C'est le moment où Staline dit qu'il faut faire l'union contre le fascisme. Quoi.
Et donc là, en tout cas, d'Olivet est un des personnages clés de cette affaire. Et d'Olivet devient... un de ses deux ou trois meilleurs amis.
D'accord. Hein.
Cette période-là, et donc tout ça est conforté. Il y a l'aspect idéologique, hein, qu'on voit bien, qui est très influencé par l'histoire du RUP. Et puis, il y a l'engagement pour les républicains espagnols, où il y a manifestement le Comintern. Donc, à cette époque-là, on peut dire en tout cas qu'on peut trouver pas mal de passerelles. Mais tout ça, la guerre va changer les choses.
Ouais.
Et d'ailleurs, Antoinette va jouer un rôle dans ce changement. C'est-à-dire que Cotte et d'Olivet font le choix d'aller à Washington.
Ce n'est pas banal.
Hein, donc, pour faire de la résistance. Ouais. Et donc, ils vont tout faire pour que Moulin vienne faire de la résistance à partir de Washington. Ils envoient les billets, ils envoient... Et eux font du boulot, hein, quand même, là-bas. Et comme Dolivès est un personnage qui est quand même incroyable, en l'espace de quelques semaines, il devient très proche de Eleanor Roosevelt, il se marie avec une femme qui a une des grandes fortunes américaines. Hein. Mais, et là, à ce moment-là, la rupture se fait à ce moment-là, donc sous l'influence de Henri Manès, qui est un autre personnage important, ancien...
De l'Espagne.
Avant l'Espagne, il est croix de feu. C'est des personnages qui il n'y a pas de personnage linéaire dans toutes ces histoires.
Alors on revient à elle, un peu comme dans votre livre, hein, on passe de lui à elle, et de elle à lui. Elle finit par céder à la cour assidue que lui fait Jean Moulin, qui en fait, encore une fois, je pense à un objectif un peu, c'est de la conquérir. Et on passe d'une amitié amoureuse à un amour amical. Bon.
Mais, j'ai beaucoup de mal à définir leur relation, mais j'ai quand même plutôt tendance à penser que c'est plus une amitié amoureuse qu'un amour fou. Hein.
Ça peut ressembler aussi à une relation Sartre-Beauvoir, quelque part, un peu. Avec les amours essentiels et secondaires.
Oui, exactement.
D'une certaine façon, elle raconte tout dans ses carnets, parce que vous en êtes quasiment à dater la nuit où ils sont la première fois dans les bras. Elle a des carnets où elle raconte les choses.
Elle voulait écrire un livre. Et donc, elle a... elle avait énormément de dossiers. Elle, et qui existent toujours. Pourquoi ? Parce que à partir de septembre 1944...
Elle traque.
Elle revient de Genève, parce qu'elle a été obligée de quitter dans l'été précédent, parce qu'elle était traquée par le commissariat général aux questions juives. Elle part à Genève, elle revient, et en septembre 1944, elle commence une enquête qui, au fond, va durer jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, dans cette enquête, il y a une partie qui est de l'enquête pure et simple, qui comme c'est... où elle travaille pour la justice, pour la police. Elle a trouvé énormément de choses sur la trahison de Caluire. Elle a amené des nouvelles pistes qui, aujourd'hui encore, elle a amené une piste notamment que j'essaie de suivre depuis 20 ans et je pense qu'on peut encore tirer des choses importantes d'une piste qu'elle a lancée. Et donc, tout ça existe, ces cahiers d'enquête existent, ces papiers, ces photocopies.
Mais elle a un journal intime aussi.
Elle a des bouts de journaux intimes. D'accord. Et elle a toutes ses lettres. Elle a c'est hallucinant, tout ce qu'elle a gardé, de tous ses amants, des rencontres avec les uns, avec les autres, avec des cartes postales de Moulin, les cartes postales d'Henri Manès, etc. Elle a des dessins en plus. Hein, on voit bien par les dessins qu'il faut faire quand même un peu attention à tout ce qu'elle raconte, parce qu'on peut au moins se poser la question si elle fantasme pas un peu trop fort, puisque 43 ans de sa vie, c'est tourne autour de Jean Moulin. Oui. Mais quand je dis tourne, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle écrit, elle cherche, elle a déjà 80 ans, à peu près 80, 82 ans. 86.
En 76, elle donne une interview à... un journal suisse.
Incroyable. Où elle parle d'un complot. Mais elle trouve aussi la trace de l'infirmier de Barbie qui donne encore des
Milévitz, là. Milévitz, non. Je pensais que vous parliez de l'Allemand qui avait accompagné Jean Moulin.
Je parle du Suisse.
Ah, du Suisse
qu'elle trouve à la fin des années 70. Elle a autour de 80 ans. Donc c'est une masse. Ouais. Une masse absolument hallucinante de dossiers où faut certes faire attention. Donc moi j'ai surtout fait attention nous avons fait attention en disant que ça venait d'elle, mais c'est vrai que toutes ces choses, notamment des choses intimes, c'est impossible à croiser.
Si on avance dans le temps, il y a cet épisode qui est absolument tragique de Chartres, hein, il est préfet de Eure-et-Loir, d'ailleurs il l'a fait venir, hein, parce qu'il faut qu'il évacue des papiers de son appartement parisien. Ils font 3 allers-retours avec sa voiture à elle entre Chartres et Paris. Elle est dépositaire en quelque sorte de secret. Hein, donc, et lui est à la préfecture de Chartres. Et là, les Allemands qui viennent d'arriver essayent de mettre en cause des soldats qu'on appellerait aujourd'hui des tirailleurs sénégalais, enfin, pour faire simple, des troupes d'Afrique, en essayant de leur mettre sur le dos un
ignoble
viol, massacre, etc. Bon. Ils vont même d'ailleurs amener Moulin sur les lieux, c'est dans une ferme, dans un village. Il y a une précision, une description quasi clinique de la situation. Il va être déjà torturé et tabassé, et là, il tente de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge avec des tessons de bouteilles, enfin des morceaux de verre.
Hein. Je crois que c'est ce moment-là qui se passe le 17 juin aussi.
Oui.
Et très très important pour comprendre en plus le personnage. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir.
Oui.
Hein, il est prêt à mourir plutôt que la mort plutôt que le déshonneur.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien, personne n'aurait su ou pas s'il avait signé ça. Mais on voit bien que c'était totalement impossible pour lui. Et donc, et en même temps, il savait que tout homme sous la torture peut basculer.
Il y a déjà ce sentiment-là.
Mais n'ayant pas peur de la mort. Je pense qu'on retrouvera le personnage trois ans plus tard. Parce que dans les semaines et mois qui vont précéder qu'à lui, où on voit bien aussi l'évolution de ce personnage, où autour de lui, notamment Pierre Meunier, Chambéron, lui disent si tu vas à Lyon, tu vas pas t'en réchapper. Donc attends un peu, va sur Genève, va sur Londres. Donc le 17 juin. Permet aussi de comprendre qui il est, de comprendre ce qui va se passer à Caluire.
Elle le lui dit aussi, elle l'incite à prendre du champ, à mettre de la distance entre ses poursuivants et lui il répond, je suis irremplaçable.
Pour compléter le portrait, il faut se resituer effectivement quelques semaines, au début mai 1943, où il y a des batailles absolument énormes à l'intérieur de la résistance intérieure, où des personnalités, notamment les personnalités de combat, avec en tête Henri Freinet et à côté ou juste derrière lui, Bénouville. Et on peut comprendre pourquoi, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin du général de Gaulle pour avoir une part de légitimité. Et ils réagissent très fort à la force avec laquelle Moulin veut au fond les mettre derrière lui, derrière le général de Gaulle. Et il a un outil extraordinaire, c'est l'argent.
Hein,
nous essayons d'écrire un peu la violence qui existe à l'intérieur de la résistance, à partir surtout de début 1943.
Alors, on peut dire que ça commence d'ailleurs dès 41, parce que à partir de 41, lui, il a envie de rendre service, il veut faire quelque chose, il décide de faire une sorte d'état des lieux, d'inventaire de la situation de la résistance en France. Donc, il va un peu partout, il agit pour son propre compte. Hein.
Ça, c'est essentiel,
aussi. C'est incroyable.
C'est un coup de bluff.
Oui, c'est un coup de bluff.
C'est vraiment un coup de bluff.
Il s'autoproclame. Un peu inspecteur général de la résistance en France.
Ouais. Absolument. C'est pour ça que les autres aussi vont quand même avoir du mal à digérer, parce que c'est auprès de Freinet.
Vous racontez l'entretien de l'été 41, première rencontre avec Freinet, ça se passe pas bien.
Ça se passe pas bien, parce que Freinet se dit qu'est-ce que c'est que ce type qui vient me voir, moi je suis déjà dans la résistance. Ce type dit qu'il veut aller à Londres et au bout du compte, tous acceptent de parler, tout simplement.
Il fait un rapport
et tout le point, le démarrage véritablement qui va ce trajet qui va l'amener à être patron de la résistance intérieure, donc c'est sur un coup de bluff, c'est-à-dire qu'il se présente à Londres après avoir fait l'état des lieux, il se présente comme s'il était mandaté par les mouvements de résistance intérieure. Et donc on peut comprendre très bien quand il revient mandaté par le général de Gaulle pour justement faire l'unification arrimée, et donc on voit bien qu'il impose la séparation de l'armée secrète et les mouvements, et ils maîtrisent avec l'argent, et on voit bien que c'est très brutal ce qui se passe. Alors il y a non seulement la résistance intérieure qui réagit mal, mais il y a aussi à Londres où il commence à poser des problèmes, parce que il a, sans en parler à Londres, il a fait en sorte, alors lui qui était représentant de la résistance intérieure au sud, dans la zone...
Il touche la zone nord et là il touche Brossolette.
Il a imposé quelqu'un dans la zone nord sans prévenir Londres. Et donc là, c'est là que va s'installer le conflit entre Brossolette et lui, et qui va être un conflit d'une violence que je décris. Alors, voilà.
Page 196, Brossolette et Moulin s'affrontent. Page 197, il y a cette scène incroyable où Jean Moulin montre, pardon de le dire comme ça, montre son cul à Pierre Brossolette.
En disant, c'est comme ça que
je
vous considère.
Voilà comment je vous considère. Il devra même lui présenter ses suites. Qui c'est qui raconte ça? Vous l'avez trouvé où, ça?
C'est tout simplement un des plus proches collaborateurs de Moulin, qui est Pierre Meunier. C'est ça qui sert ce livre aussi, c'est de... Quand on parle de Moulin aujourd'hui, notamment par Daniel Cordier, c'est plutôt la vision à partir de Londres et à partir des documents du BCRA. Mais il y a des personnages qui sont largement oubliés, qui étaient en fait les grands amis de Moulin. C'est-à-dire les amis, ce qu'on appelait la bande à côte. Voilà. Et donc, je pense que autant d'Olivet est peut-être le principal ami, mais il est parti à Washington. Et donc, celui qui reste l'homme le plus proche, c'est Henri Manès.
Henri Manès, d'accord.
Et avec deux personnages ensuite, qui est Pierre Meunier et Robert Chambéron. Et donc, ces trois personnages-là vont être détestés par Londres. D'autant plus que Henri Manès, véritablement personnage venant de Croix-de-Feu, ayant fait la guerre, ayant fait, et donc lui, il va mener la recherche de résistants dans les milieux francs-maçons, notamment autour d'un groupe qui s'appelle Patriam Recuperare. Et donc, parler de tous ces gens-là, ça décale aussi le regard qu'on peut avoir sur l'action dans la résistance de Jean Moulin.
Il n'était pas franc-maçon, Jean Moulin? On n'a jamais réussi à l'attester?
Moi, je pense que oui, mais je n'ai pas la preuve absolue. Il ne s'affichait pas comme tel, même s'il avait beaucoup d'amis francs-maçons, que son père était vénérable. D'accord. Et qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il y a dans les livres sur la franc-maçonnerie, il est annoncé, mais il n'y a pas la preuve formelle qu'il l'ait été.
L'arrestation de Caluire, l'affaire de Caluire, c'est terrible, parce que c'est le début de la trahison de Caluire. On dit ça pour qu'on avance. On ne va pas revenir sur les circonstances, sur toute cette affaire. Ce qui est certain, c'est que vous, dans le livre, vous êtes convaincu que Hardy, d'une manière ou d'une autre, est responsable de l'affaire. La question après, c'est de savoir si c'est un service commandé ou si c'est une imprudence ou si c'est une trahison individuelle, c'est ça?
C'est compliqué, même encore aujourd'hui, de désigner René Hardy comme étant le ou un le principal traître de Caluire, puisqu'il a été jugé deux fois et que deux fois il est sorti libre. Il est sorti libre.
Ben, les conditions des deux procès sont quand même très
incroyables. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé d'en reparler, puisque le deuxième procès en 1950, c'est devant un tribunal militaire et il y a quand même 4 voix sur 7 qui le déclarent coupable. Mais pour qu'il soit véritablement coupable, aurait fallu 5 voix sur 7. Autrement dit, ok, il est libre, et il sort libre, mais enfin, avec la majorité quand même du jury qui le considérait comme coupable. Moi, je crois que, disons que tous les documents qui existent, qu'ils soient des documents allemands, qu'ils soient des documents français, montre qu'il a bien été arrêté par la Gestapo dans le train, qu'il en a...
À une date sur laquelle il avait menti.
Il a menti sur tout, c'est-à-dire que... Et pendant la résistance, de toute façon, même si on ne va pas jusqu'au bout de la... jusqu'où je vais, mais en tout cas, quand on a été arrêté par la Gestapo, là, une règle essentielle de sécurité...
C'était de verrouiller.
C'était de ne pas aller à un rendez-vous, c'est-à-dire d'être écarté le temps qu'on croise et qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de problème.
Une autre chose qui est tout à fait étonnante, moi j'avoue que j'ai complètement découvert dans votre livre, à travers les yeux d'Antoinette, quand elle rentre de Genève en septembre 1944, c'est la libération a eu lieu quelques semaines plus tôt, il et elle, les femmes proches, Laure, sa sœur, Antoinette, elle le croit encore vivant, elle le cherche, Jean Moulin, comme s'il était encore vivant. Ben oui, c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas communiqué sur la mort de Moulin.
Si, ils ont communiqué.
Ils ont envoyé un avis de décès le 9 mai.
Oui, ils ont fait. Et donc, Laure Moulin, elle...
Mais elle ne le croit pas. Elle pense que c'est...
Non, elle y a cru, d'abord. Ouais. Et puis, petit à petit, comme il n'y a pas de preuves absolument formelles, puisque c'est censé être une urne qui est censée être Moulin, elle veut y croire, même si depuis... elle a été prévenue par les Allemands. Quant à Antoinette, elle arrive, elle ne sait rien dans un premier temps. Elle n'est pas en rapport du tout avec Laure Moulin dans un premier temps. Elle mène son enquête.
Elle ne répond pas d'ailleurs aux premières lettres.
Elle mène son enquête elle espère au fond les deux femmes au bout d'un certain temps espèrent qu'il est encore vivant. C'est ça. Je crois que j'en parle. Il y a même un témoignage où dans le nord de la France,
quelqu'un l'a vu. Il serait mort accidentellement.
Voilà. Il faudra encore attendre un certain temps avant qu'il soit. Alors, ce qui est intéressant après, c'est l'image de Jean Moulin, de ce qui va comment dans un au fond Moulin. Au début, est oublié.
Complètement
oublié, parce que il est, au fond, la trahison de Caluire, il y a des choses qui sont... C'est quand même pas beau, tout ce qui s'est passé. Il y a des soupçons terribles.
Alors, il y a des soupçons, y compris sur Freinet,
En tout cas, du mouvement combat. Pas Freinet lui-même. Il n'a jamais été personnellement.
Bénouville joue un rôle qui est quand même très compliqué, parce que c'est Bénouville qui aurait dû aller à la réunion de Caluire.
Absolument. Voilà,
Et donc il envoie celui qui était grillé quelque part.
Pour moi, j'estime qu'on ne peut pas dire que Bénouville est coupable, mais au moins il porte une part de responsabilité.
D'accord.
Il aurait dû y aller, et il aurait dû empêcher Hardy, et ce n'était pas prévu qu'Hardy soit.
Bien sûr.
Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas... Il y en a un qui a... C'est le rôle d'Aubry aussi, qui a lui avoué tout de suite, qui a parlé aux Allemands. Après aussi, il y a René Hardy. Ce que moi j'ai découvert en me servant d'une découverte d'Antoinette, c'est-à-dire c'est la liaison qu'avait Lydie Bastien... Lydie Bastien,
la
qui était
maîtresse de
la maîtresse et qui rendait complètement fou René Hardy. Je pense que René Hardy, s'il a basculé comme il a basculé dans les derniers mois avant Caluire, c'est à cause de Lydie Bastien. Hein.
Mais c'est la maîtresse d'un gestapiste.
Et donc Lydie Bastien, eh bien, dans les documents que j'ai trouvés grâce à Antoinette, eh bien, elle est liée... À des services proches de la Gestapo, proches de Vichy, enfin des services secrets Vichy, et proches de l'Abwehr. Donc Lydie Bastien, elle est considérée par ces gens-là comme une agente. Hein. Et donc, et indirectement, Hardy est aussi considéré par ses mouvements comme un agent. Ouais. Donc je pense qu'il a été énormément manipulé, hein. Il était follement amoureux de cette femme qui était diabolique.
C'est un cheminot, hein, c'est ça.
Comment ?
C'était un cheminot ?
Oui, absolument.
Ah,
je crois qu'au départ, c'est un, là-dessus, il n'y a aucun problème.
C'est un authentique résistant
qui te prendait tout ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais cette femme, je crois, le rend fou. Hein.
Moi, ce qui m'a tout à fait fasciné dans le livre, c'est finalement le rapport à la mémoire. On en parlait tout à l'heure de Jean Moulin jusqu'à la panthéonisation de 64. Il est tombé dans l'oubli.
Ouais.
Il n'y a guère que le Parti communiste qui le soutient d'ailleurs
à cette époque. Et donc qui continue compte tenu de la guerre froide.
Ça le plombe
complètement. Et donc si De Gaulle ne revient pas,
c'est les gaullistes qui se le réapproprient. Voilà.
C'est les gaullistes qui se les réapproprient.
Mais alors moi j'ai quand même une dernière question parce que là. Il fallait vous lire et aller jusqu'au bout, c'est quand même la réaction du général, et en particulier à travers quelqu'un dont il faut lire les mémoires parce qu'elles sont passionnantes, c'est le capitaine Claude Guy, hein, qui a été son chef de cabinet à Colombey les deux églises, et qui rapporte ceci dans la bouche du général de Gaulle, après le premier procès d'Hardy.
Oui.
Le procès, c'est De Gaulle qui parle. Le procès a laissé entièrement dans l'ombre les principales questions posées, des questions auxquelles la justice en d'autres temps eût trouvé ou essayé de trouver les réponses. Tout ce qu'on peut dire sans trop de risque de se tromper, c'est que les ténèbres de cette affaire cachent des abîmes d'infamie. Les camarades de résistance en sont arrivés à cette infamie, à cette extrémité d'infamie, de livrer leurs frères. Pourquoi ? Pour arriver les premiers à la libération, ils ont fait cela. Ils l'ont fait alors que les Allemands avaient le genou sur leur gorge. Ils l'ont fait par les Allemands. Et
elle est incroyable, cette
phrase. Et c'est surtout, alors là, ça va être le mot de la fin. Ça, c'est après, le deuxième procès. Le général de Gaulle dit, ce que je constate, c'est que au CNR, après l'arrestation de Jean Moulin, il n'y a plus eu d'arrestation. Terrible, ça, quand même.
Terrible.
Jean Moulin, qui était mon représentant. Une fois qu'on a arrêté mon représentant, il n'y a plus d'arrestation au Conseil national de la résistance.
Je crois qu'on n'a jamais assez insisté sur la liaison très extraordinairement forte, qui n'était pas du tout évidente, entre le général de Gaulle et Jean Moulin.
Mais alors, pourquoi est-ce que de Gaulle ne met pas tout son poids dans la balance pour trouver la vérité ? C'est ça, la vraie question. Est-ce que c'est de Gaulle qui ne veut pas remuer la situation.
Non, on peut déjà, avant même ça, on peut se poser la question, que pose à un moment Antoinette, pourquoi Londres n'a pas essayé quand Moulin était arrêté à Lyon, pourquoi on n'a pas essayé de le sortir ? On en a essayé d'échanger ou de faire des coups. Là, il ne s'est rien passé. Mais il faut se remémorer le contexte. Quelques jours avant Caluire, Freinet, donc le patron du principal mouvement de résistance, était à Londres avec un objectif, c'était d'évincer Jean Moulin.
Oui, hein?
Et la définition que donne De Gaulle, au fond, elle reprend la lettre que Jean Moulin a écrite, le 9 mai 1943, qui est véritablement un testament, où il dit justement, je suis... Il a même cette début de phrase, je vais disparaître. Et il dit qu'il est traqué partout, par la Gestapo, par Vichy, que les mouvements de résistance, et il décrit même les intrigues de mouvements de résistance. Et donc, enfin, pour effectivement, c'est la phrase la plus terrible qui existe, la phrase que vous avez lue,
arriver les premiers à la libération.
Et je voudrais peut-être encore juste encore un mot. J'y vais, c'est fini, hein, j'y vais. C'est que je crois que sans Antoinette, il n'y a pas de Jean Moulin.
Ah oui, à ce point-là.
En tout cas, Antoinette et leur Moulin, parce que vous avez parfaitement défini, c'est-à-dire jusqu'à la panthéonisation. Ah. Eh bien, les deux femmes participent énormément à la panthéonisation. Et il était dans les limbes, hein, il était retombé, parce que soutenu notamment par Pierre Cotte. Et puis, il faut bien avoir en tête que tous les amis de Moulin de la bande Cotte étaient tous allés vers le Parti communiste, où étaient des compagnons de route. Henri Manès était le directeur de cabinet de Marcel Paul, ministre de la production industrielle. Pierre Meunier Chambéron était aussi dans la mécanique du Parti communiste. Et donc tout ça tirait
oui,
et donc elle va participer à ce qu'il soit panthéonisé, mais elle va continuer au point où sa fortune, qui est très grande, eh bien, elle va la consacrer avant de mourir, elle va donner tout son argent à la mairie de Paris, à charge pour la mairie de Paris, de pérenniser la mémoire de Jean Moulin et de créer un musée. Donc c'est au fond 43 ans de sa vie qui autour de Jean Moulin et qui participe à ce que Jean Moulin est Jean Moulin aujourd'hui.
Écoutez, merci Pierre Péan. Il y a plein d'autres choses. Il y a un chapitre, une évocation avec une rencontre avec Daniel Cordier, une remarque de Daniel Cordier tout à fait passionnante sur la suspicion d'homosexualité qui a traîné sur Jean Moulin tout au long, on va dire, de ses 60 dernières années, hein, avec, vous verrez, une phrase, une remarque passionnante, tout à fait drôle de Daniel Cordier. Cher Pierre Péan, merci beaucoup, parce que je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures et des heures.